Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour prendre soin de vous, pour vous rassurer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à l'infarctus, cette urgence cardiaque qui reste fréquente malheureusement. Nous ferons un point sur les symptômes qui doivent donner l'alerte, mais aussi sur le traitement. Savez-vous justement qu'il peut démarrer bien souvent dès le domicile du patient, ou en tout cas le lieu où le SAMU prend en charge la victime. Nous verrons également quelles sont les suites après un tel accident et comment éviter la récidive. Pour nous décrypter tout cela, notre invité, ce sera le professeur Nicolas Danchin. Il est cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un zoom cet après-midi sur une maladie rare dermatologique, l'épidermolyse bulleuse. Des enfants qui ont une peau plus fragile que les ailes d'un papillon, et on va essayer de leur donner un petit coup de pouce. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à un jeune homme très inquiet de ne plus savoir s'y prendre après plus de 2 ans sans rapport sexuel.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou alors celles que vous nous envoyez également sur les réseaux sociaux. Et justement, on va démarrer par cette question d'Elsa qui vit en Bretagne et qui nous a écrit la chose suivante. Écoutez bien Jimmy, j'ai l'impression qu'avant, quand j'étais ado en tout cas, on retirait les dents de sagesse un peu d'office quasi à tout le monde. J'ai l'impression qu'on le fait moins actuellement et surtout, j'ai l'impression que mon fils qui a 17 ans n'en a même pas de dents de sagesse dans sa bouche. Est-ce que c'est possible? Alors je disais Jimmy, mais en fait, on a choisi de ne pas vous faire répondre à cette question. On a posé la question à un spécialiste des dents, le docteur Christophe Lecar. Il est chirurgien dentiste et membre de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
L'extraction des dents de sagesse aujourd'hui n'est plus systématique. Avant, on procédait de manière régulière à ce qu'on appelle la germectomie, c'est-à-dire l'avulsion des germes des dents de sagesse parce qu'on craignait qu'elles déplacent les dents. Et aujourd'hui, toutes les études prouvent que même après un traitement orthodontique, il n'y a pas de risque de déplacement dentaire lié aux dents de sagesse. On continue à pratiquer les extractions des dents de sagesse dans différents cas, en particulier quand on a des accidents d'évolution de ces dents de sagesse à répétition avec des inflammations et parfois même des infections, où là, on va décider de faire ces extractions. De plus en plus d'enfants ne présentent pas de germes de dents de sagesse. On peut expliquer ça lié à l'évolution des espèces parce que notre mâchoire se raccourcit et en conséquence, la nature fait bien les choses. Il n'y a donc plus les germes des dents de sagesse parce qu'elles deviennent inutiles.
Alors, c'était donc le docteur Lecar au micro de Benjamin Lévesque. À présent, Jimmy, c'est vraiment une question pour vous. On va l'écouter, cette deuxième question d'auditeur. C'est Maxence qui a 25 ans qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je me posais une question. Je voulais savoir à partir de quel âge faut-il faire une prise de sang pour le test PSA, celui qui permet de surveiller le risque de cancer de la prostate. Moi, je suis encore jeune, mais je me demandais si c'était utile. Merci beaucoup.
Jimmy, alors d'abord, on va faire un petit retour en arrière. Le test PSA dont parle Maxence, cette prise de sang, qu'est-ce que c'est? Ça mesure quoi concrètement?
Alors le PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate. C'est quelque chose qui est produit de façon naturelle par la prostate, qui va se déverser dans le sang et qu'on va pouvoir doser lors d'une prise de sang classique. Et si jamais ce PSA est trop élevé, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre prostate, mais un problème au sens large, ça ne veut pas forcément dire une grave maladie.
D'accord. Est-ce que ça se fait, cette prise de sang, dans des conditions particulières? Je ne sais pas, là on est sur la partie pratique, on va dire, il faut être à jeun, il faut avoir une ordonnance.
Alors oui, ça se fait plutôt sur ordonnance, puisque c'est votre médecin qui va le décider quand est-ce que vous devez faire ça. À jeun, pas forcément, même si peut-être que vous le serez quand même, puisque souvent, on en profite pour faire un autre bilan, un bilan lipidique, la glycémie à jeun, pour être sûr que vous n'avez pas de diabète, même si, en règle générale, ce PSA peut être dosé à n'importe quel moment. La seule chose, c'est qu'il faut être à distance d'une infection de la prostate, qu'on appelle la prostatite, puisque celle-ci va augmenter de façon artificielle ce PSA. Vous allez croire qu'il y a un problème alors que c'est juste une infection. Donc on fait ça quand la prostate était un peu reposée en quelque sorte.
Très bien. Alors une fois qu'on a reposé cette prostate, Maxence, qui a donc à peine 25 ans, il demande si pour lui c'est recommandé de faire cette prise de sang. Il est un peu jeune, non quand même?
Alors si votre médecin décide de le faire, il faut le faire. C'est qu'il y a une bonne raison. Mais
oui, peut-être des antécédents familiaux, ça compte.
Oui, alors
hein, je crois.
À 25 ans, c'est quand même assez particulier. Donc si votre médecin vous dit de le faire, faites-le. Mais vous n'allez pas à la pêche justement à chercher tout et n'importe quoi. À 25 ans, la probabilité d'avoir une pathologie de la prostate est extrêmement rare. La seule chose, c'est si au toucher rectal ou lors d'examen,
oui, il y a une anomalie.
Il y a une anomalie. Là, à ce moment-là, on le fait. Mais en général, on attend un âge un peu plus mûr, un âge que je vais bientôt atteindre d'ailleurs.
Ah, justement, c'est quoi l'âge plus mûr? Alors, à partir de quel âge c'est recommandé? Parce que, encore une fois, ce n'est pas un dépistage systématique comme le cancer du sein, par exemple. C'est recommandé chez les hommes dans quelle tranche d'âge?
Oui, à partir de 50 ans, on conseille.
Bon, ça va, vous en êtes loin, je vais bientôt en arriver là.
J'ai quelques années devant moi encore.
Mais alors, à partir dit-il à 33 ans, d'accord.
De 50 à 70 ans, on propose justement de doser ce PSA couplé au toucher rectal. Et puis, ça dépend de plein de choses. Évidemment que si vous avez des symptômes qui peuvent évoquer une prostate un peu trop grosse, ou s'il y a des anomalies, ou s'il y a des antécédents dans la famille, on aura recours à ce dosage, puisqu'on sait que si jamais on arrive à détecter un petit cancer, si on le traite tout de suite, vous avez de grandes chances de guérir. Or, si on laisse ce PSA grimper et qu'on découvre une tumeur, eh bien là, en revanche, on aura du mal à vous traiter.
Alors, on va rassurer ces messieurs qui nous écoutent. Un test PSA, vous l'avez déjà un petit peu amorcé, mais on est d'accord, ce n'est pas du tout un cancer de la prostate assuré non plus. Hein.
Non, ça veut dire qu'il faut faire des examens complémentaires, doser peser cette prostate, parce que vous allez avoir une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostate qui est un peu plus grosse. Il n'y a pas forcément un cancer. Parfois, on aura recours à une biopsie, mais la biopsie ne veut pas dire cancer. Pour autant, faites des examens, il ne faut pas faire l'autruche et il ne faut pas attendre d'être malade pour commencer à prendre soin de sa santé.
Très bien, et de sa prostate. Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi, comme Maxence qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, professeur Nicolas Danchin. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et si vous êtes avec nous en studio aujourd'hui, c'est pour nous faire un éclairage sur l'infarctus. On va vraiment tout expliquer en détail à nos auditeurs. D'abord, professeur Danchin, chaque année en France, il y a combien d'accidents de ce type?
Alors c'est difficile d'avoir des chiffres extraordinairement précis, mais les formes graves d'infarctus, c'est entre 60 et 80 000 personnes tous les ans. Donc c'est beaucoup quand même.
Quand même, mais oui, ça reste un.
Et on a quelle répartition entre les hommes et les femmes?
Alors c'est à peu près 3/4 d'hommes,
ah oui,
1/4 de femmes.
Il y a une grosse différence.
Mais
quand même,
avec une grosse différence d'âge moyen. C'est-à-dire que ça survient presque 10 ans plus tôt en moyenne chez les hommes.
C'est quel âge du coup chez l'homme?
Alors, en moyenne, si on prend la population globale, c'est autour de 65 ans. Et chez les hommes, c'est un peu plus, donc c'est autour de 60 à peu près chez les hommes. Et chez les femmes, c'est plutôt 68 par là. Mais on voit, on y reviendra sans doute, on voit en ce moment que ça change un peu. Et on voit de plus en plus souvent actuellement des femmes jeunes qui sont victimes de crises cardiaques, d'infarctus.
Juste pour avoir une idée, professeur Danchin, c'est plus ou moins qu'il y a 25 ans, 30 ans. Est-ce que ça évolue dans le bon sens ou pas l'infarctus en France?
Alors oui, ça évolue dans le bon sens. En France et dans pratiquement tous les pays industrialisés, où on voit une baisse assez continue, au moins jusque vers 2015. Là, actuellement, il semble que ce soit, qu'on arrive un peu à un plateau. C'est très probablement lié au progrès qu'on a fait dans la prévention, qui est chère à Jimmy. C'est vraiment ça, très probablement, qui explique cette baisse des infarctus. Sauf la catégorie des femmes jeunes.
Ah, oui, toujours.
Et c'est probablement très lié au tabac, puisque ça va de pair avec le fait que, en France notamment, la seule catégorie de la population où le tabagisme a tendance à augmenter, ce sont les femmes jeunes.
Mesdames, il faut arrêter de fumer, on en reparlera, Jimmy.
Et justement, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on fait un infarctus au niveau du cœur?
Alors, un infarctus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cœur, c'est un muscle qui joue un rôle de pompe, qui se contracte pour éjecter le sang dans l'ensemble de l'organisme, et ce muscle, il a besoin d'être alimenté. Donc, il est alimenté par des artères qui lui apportent du sang et donc de l'oxygène. Et l'infarctus, c'est quand on a une de ces artères, qu'on appelle les artères coronaires dans le jargon médical, c'est quand une de ces artères se bouche par un caillot. Il y a un caillot qui vient se former sur une plaque de graisse, une plaque d'athérome. Cette plaque, en général, s'est fissurée un petit peu en surface. Du coup, le sang qui passe dans l'artère voit qu'il y a une blessure et il vient essayer de colmater cette fissure qu'il aperçoit. Et comme l'artère coronaire, elle est toute petite, ça fait à peu près 3 mm de diamètre,
ça se bouche.
Ça va très vite pour se boucher avec le caillot qui essaye au départ uniquement de de fermer la petite fissure de la plaque.
Infarctus, arrêt cardiaque, c'est pareil ou pas du tout?
Alors non, c'est pas pareil, mais les infarctus peuvent se manifester par des arrêts cardiaques. Mmh. Et c'est la complication en fait la plus grave. Ça peut arriver dès les premières minutes de l'infarctus dans certains cas.
C'est la mort subite, c'est, enfin,
et ça donne une mort subite. On tombe, on a à peine le temps, on ressent une douleur et on a à peine le temps de dire ouf, si je puis dire, et on tombe d'un arrêt cardiaque à ce moment-là. Mais heureusement, ça reste quand même assez rare.
Justement, parce que vous l'avez dit, c'est une artère coronaire qui se bouche et en dehors de la mort subite qui est terrible, on va forcément avoir des symptômes, c'est quelque chose pour lequel on ne va pas passer à côté.
Alors, il y a pratiquement toujours des symptômes. Le symptôme le plus classique et qu'on voit dans, je dirais, au moins trois quarts des cas, c'est une grande douleur au milieu de la poitrine. Ce n'est pas sur le côté gauche, c'est pas... Et c'est une douleur assez particulière parce que c'est comme quelque chose qui vous comprime la poitrine. Mmh. C'est une douleur un petit peu angoissante aussi.
On n'a jamais ressenti
souvent.
Ça, que les gens qui le reçoivent pour, qui le ressentent la première fois, ils décrivent quelque chose de nouveau.
Ils trouvent quelque chose de bizarre. Ouais. Alors, c'est plus ou moins intense. Il y a des personnes qui ont très, très mal, qui ont vraiment l'impression d'avoir la poitrine broyée. Et puis, il y a des personnes, au contraire, pour qui c'est beaucoup moins important comme type de douleur, mais généralement ça se ressent. Alors après, il y a d'autres formes possibles, comme toujours en médecine. Il n'y a jamais un seul tableau unique, mais il faut savoir que ça, ce sont quand même les formes les plus fréquentes.
Alors si on ressent ce que vous avez décrit, il faut faire quoi? Il faut appeler le 15. Est-ce que c'est une urgence? Alors ça, on s'en doute évidemment, mais on dit souvent, on entend que pour l'AVC par exemple, chaque minute compte. Est-ce que là aussi, pour le cœur, chaque minute compte?
Alors oui, chaque minute compte. Un tout petit peu moins que pour l'AVC, si on devait faire une compétition entre les neurologues et les cardiologues.
Mais il faut quand même y aller rapidement.
Mais il faut y aller vite, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand l'artère est bouchée, le muscle n'est plus du tout irrigué. Et à ce moment-là, il va pouvoir résister pendant 2 heures, 3 heures, au mieux 6, 7, 8 heures, mais pas plus que ça. Et si on laisse l'artère bouchée pendant tout ce temps-là, on va avoir toute une portion du muscle cardiaque qui va être détruite. Alors, elle ne l'est pas détruite
c'est
au
nécrosé,
point, en
général. C'est nécrosé, c'est mort. Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, les cellules vont perdre leur capacité à se contracter. Il va rester juste, si vous voulez, le squelette des cellules. Donc, le cœur ne se dissout pas, mais la zone qui était irriguée par l'artère qui s'est bouchée ne peut plus se contracter.
Du coup, on appelle le 15, c'est ça? On ne va pas chez le médecin traitant, on ne va
pas
aux urgences?
Alors, le bon réflexe à avoir, quand on a une douleur qui fait penser à un infarctus du myocarde, donc encore une fois, c'est généralement au plein milieu de la poitrine, quelquefois au creux du ventre, quelquefois dans les mâchoires, à ce moment-là, si la douleur persiste pendant plus, on va dire d'une dizaine, quinzaine de minutes, il ne faut pas avoir peur d'appeler le 15.
On ne se rend pas à pied soi-même à l'hôpital
non,
le plus
il faut,
proche.
Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire l'autruche. C'est vraiment important parce que le but ensuite, c'est de déboucher cette artère le plus vite possible.
Justement, on va y passer. Professeur Danchin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio, c'est vous, professeur Nicolas Danchin. Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et professeur, on va passer à la prise en charge de cet infarctus dans un premier temps, la prise en charge dans la phase aiguë, dans l'urgence. Mais avant ça, peut-être, on pourrait s'arrêter sur des chiffres. Est-ce qu'on sait quelle est la part totale finalement d'infarctus chaque année en France? Combien dans cette part totale d'infarctus, combien vont s'en sortir et combien vont décéder finalement?
Alors, grâce à Dieu et un peu aux cardiologues parfois et aux urgentistes.
Oui, mais les cardiologues ne prennent pas pour Dieu.
La plupart des malades vont s'en sortir. Et ça s'est beaucoup amélioré au cours des 20-25 dernières années. On a fait des enquêtes en France, des enquêtes nationales depuis 1995. Et pour vous donner une idée, en 1995, il y avait 17% des personnes qui faisaient un infarctus qui étaient mortes au bout de 6 mois. On est tombé en 2015, à la fin de 2015, on était à 5%
c'est énorme.
Au bout de 6 mois. Donc vous voyez que c'est une différence vraiment colossale. Mais 5%, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est pas,
on peut encore faire mieux peut-être.
Alors c'est toute la question. On espère, nous, vous savez qu'on est des optimistes, donc on espère toujours faire mieux. On essaye de perfectionner nos méthodes de prise en charge, à la fois pour déboucher l'artère, mais beaucoup aussi pour tous les traitements qui vont accompagner cette phase aiguë d'infarctus, c'est-à-dire les premières minutes ou les premières heures.
Alors imaginons quelqu'un a une douleur à la poitrine, il appelle le 15, le SAMU se déplace à la maison ou parfois c'est SOS médecin qui vient. Donc pour faire le diagnostic, on fait ce qu'on appelle un électrocardiogramme et avec ça, on peut être sûr qu'il y a un infarctus?
Alors, on a une spécificité en France avec le SAMU, c'est-à-dire qu'on amène au chevet des personnes chez eux une unité de soins intensifs, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment une chance énorme.
Ouais. Et on est très fiers, parce que c'est français, et vraiment.
On a de quoi en être fiers, parce que vraiment, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et donc, effectivement, après avoir examiné cliniquement les patients, la première chose qu'on va faire, c'est un électrocardiogramme, parce que c'est sur l'électrocardiogramme qu'on va être capable de dire est-ce que c'est un infarctus qui nécessite un débouchage urgent de l'artère coronaire, ou bien est-ce que c'est une autre forme de...
Est-ce qu'on roule à 150 km/h ou est-ce qu'on roule un peu moins vite?
En gros, c'est un petit peu ça. C'est à quelle vitesse il faut atteindre l'hôpital.
Et à quelle vitesse eux-mêmes, sur place, donc ça peut être même au domicile du patient, ces équipes mobiles de soins intensifs sont capables tout de suite déjà de commencer à déboucher sur place. On est d'accord?
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a deux techniques qu'on peut utiliser pour déboucher l'artère. La première technique, c'est un peu comme un desktop pour déboucher son évier. C'est-à-dire que vous allez injecter un médicament qui dissout les caillots. Alors, c'est très commode parce qu'on peut faire ça à la maison, chez les...
Dans la rue, même si quelqu'un fait un arrêt cardiaque.
Dans la rue, s'il le faut. Enfin, en pratique, c'est en général dans l'ambulance du SAMU que ça se fait. Et ça va extrêmement vite. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que ça peut faire saigner trop. Et en particulier, il y a un risque potentiel d'hémorragie dans le cerveau, ce qui est une complication grave. Donc, il faut bien respecter un certain nombre de cas de figure où on ne peut pas faire ces traitements parce qu'il y a un trop grand risque que ça saigne dans le cerveau. Le deuxième ennui, si je puis dire, de cette technique, c'est que dans à peu près un tiers des cas, ce n'est pas suffisant pour déboucher l'artère.
Et du coup, justement, on fait ce qu'on appelle une coronarographie, c'est ça ?
Et du coup, on fait une coronarographie. La technique qu'on recommande dans toute la mesure du possible actuellement, mais à condition qu'on puisse le faire suffisamment vite, c'est-à-dire qu'on soit suffisamment près d'un hôpital équipé avec des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, c'est d'aller déboucher l'artère, cette fois-là, comme un plombier avec son furet, c'est-à-dire qu'on va...
D'abord, il y a le desktop à la maison, puis après, il y a le plombier quand même qui arrive.
Mais vous savez, c'est un peu de la plomberie, la cardiologie comme ça. On va faire une coronarographie pour voir l'état des artères coronaires. On injecte un produit qui permet de faire un moulage des artères. On voit l'artère qui est bouchée et on va passer à travers avec un petit fil, puis un petit ballon. Et souvent, sur le ballon, il y a ce qu'on appelle un stent, c'est-à-dire un petit grillage qui va maintenir l'artère ouverte.
Qui va rester en place. Lui, on va le déposer, il va rester là.
Exactement. On va gonfler le ballon. Le stent va maintenir l'artère bien ouverte et en faisant ça, on va déboucher l'artère. Alors ça marche très bien dans plus de 90% des cas.
C'est l'angioplastie, c'est ça ?
C'est ce qu'on appelle l'angioplastie, oui. Donc ça marche extrêmement bien. Mais évidemment, il faut pouvoir le faire. Et surtout, on peut le faire partout en France, mais on ne peut pas partout le faire très vite. Si vous habitez un endroit loin d'un centre, ou même s'il y a des bouchons terribles pour vous amener jusqu'à l'hôpital, on peut avoir intérêt à faire d'abord un traitement par ce qu'on appelle les fibrinolytiques, qui vont dissoudre le caillot, et après on vous amènera plus tranquillement en salle de coronarographie pour compléter le geste et déboucher secondairement l'artère.
Et on ne rentre pas tout de suite à la maison, on est hospitalisé après ce geste quelques jours pour être surveillé.
Oui, on est hospitalisé, oui, parce qu'il y a un risque de complication qui va demeurer quand même, parce qu'il y a toujours une phase quand même de... C'est très difficile de déboucher l'artère en moins de 2 heures, on va dire, par rapport au début de la douleur. Et donc, il y a toujours au moins un peu de dégâts. Donc, on va garder les patients en soins intensifs de cardiologie d'abord.
Une hospitalisation de combien de temps en général ?
En moyenne, c'est autour de 5 jours, 6 jours, tout compris entre les soins intensifs et ce qui suit.
Professeur Danchin, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi, c'est le professeur Nicolas Danchin. Vous êtes cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Alors professeur Danchin, une fois l'infarctus stoppé, le caillot dissous, les stents posés éventuellement pour éviter que l'artère ne se rebouche, il va y avoir des traitements qui seront prescrits aux patients. Ce sont des traitements à vie ou pas ?
En gros, oui. Alors, il y a des traitements qu'on pourra interrompre au bout de quelques mois en général, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si on a fait un infarctus, c'est parce qu'on a une maladie de fond des artères. Des artères du cœur, mais souvent aussi des artères qui irriguent le cerveau, éventuellement de l'aorte, des artères des jambes, etc. Et cette maladie-là, elle ne va pas disparaître parce que vous avez enlevé le caillot. Donc, il faut faire en sorte que cette maladie s'arrête et arrête de progresser.
Et donc, sans rentrer dans le détail, voilà, vous donnez quoi comme médicament, sans trop détailler non plus.
Il y a deux catégories de médicaments qui sont vraiment indispensables. La première, c'est l'aspirine à petite dose, qui a une vertu d'être un fluidifiant du sang. Donc, ça diminue le risque de faire des caillots. Donc ça, c'est un premier traitement qui est donné à peu près à tous les patients qui ont une maladie coronaire, donc une maladie de ses artères. Et puis le second traitement qui est indispensable aussi, c'est les traitements qui baissent le cholestérol dans le sang. Les plus communs d'entre eux sont les statines. Et ça, c'est parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on fait un infarctus, c'est parce qu'il y a dans la paroi de l'artère une plaque d'athérome, donc une plaque qui contient
une plaque de
des
cholestérol,
graisses,
hein, ouais.
Une plaque de cholestérol, pour faire simple, oui. Et il faut essayer de diminuer l'alimentation de cette plaque. Alors si j'essaye de vous donner un exemple, l'artère, c'est comme s'il y avait une espèce de vernis à l'intérieur qui protège sa paroi de tout ce qui peut passer dans le sang. Et quand ce vernis à l'intérieur, on appelle ça dans notre jargon de l'endothélium, quand ce vernis est abîmé à cause des facteurs de risque, le tabac, le diabète, l'hypertension, etc., et bien à ce moment-là, le cholestérol va passer à travers ce vernis et va venir se déposer dans l'intérieur de l'artère coronaire.
Donc on repart avec une ordonnance de traitement, mais avant de retourner à la maison, on passe parfois par la case réadaptation cardiaque. C'est quelque chose qui est finalement peu connu du grand public, mais qui est très important.
Alors oui, c'est très important et c'est malheureusement plutôt sous-utilisé en France pour tout un tas de raisons, et entre autres parce qu'il n'y a probablement pas assez de services de réadaptation en France. Quand j'ai commencé, j'ose pas dire quand j'ai commencé à exercer la cardiologie... La réadaptation cardiaque, c'était destiné à apprendre aux gens à refaire des efforts physiques. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était des gros infarctus. Les gens étaient hospitalisés pendant au moins 3 semaines pour leur infarctus.
Oui,
et ils se déconditionnaient complètement. Donc, il fallait les sécuriser, leur réapprendre à marcher. Là, les gens vont rester alités pendant 2 ou 3 jours maximum. Et donc
ils ne sont pas dans le même état quand ils sortent.
Donc,
oui, ça
n'est pas l'exercice physique qui est finalement la finalité première, même si ça compte aussi, en réadaptation. Ce qui est la finalité essentielle, c'est d'essayer de changer le mode de vie qu'on a. Donc, apprendre chez les fumeurs à arrêter de travailler, de fumer, pardon.
Travailler, on peut.
Travailler, on peut en général, oui. Donc, essayer d'arrêter de fumer pour les fumeurs, essayer de manger le mieux possible pour essayer de préserver ses artères, apprendre à faire de l'exercice physique régulièrement, ça ne veut pas dire forcément du sport, mais
comprendre l'intérêt des médicaments, peut-être, c'est important aussi, non ?
Et comprendre l'intérêt des médicaments, comprendre qu'il ne faut pas arrêter brutalement ces médicaments. Pour vous donner un exemple, on a fait avec la caisse d'assurance maladie, il y a maintenant une petite dizaine d'années, on avait regardé les gens qui étaient sortis de l'hôpital après un infarctus en ayant une prescription d'un traitement par statine. Et bien ceux qui ont arrêté leur traitement, il y a eu 70% de mortalité en plus par rapport à ceux qui continuaient leur traitement. Donc c'est vraiment... quelque chose de très important que de suivre régulièrement ces médicaments.
Alors, j'ai pas envie de mettre les cardiologues au chômage, mais est-ce qu'on pourrait pas éviter ces infarctus et éviter de venir vous voir une fois que l'artère est bouchée ? Est-ce qu'on pourrait pas faire pour une fois un peu de prévention ? Parce qu'on est très bon sur le curatif, on sait sauver des vies, mais sur la prévention des maladies cardiaques, on est un peu moins bon.
Alors, vous avez à 100% raison. L'idéal, c'est d'essayer d'éviter de faire un infarctus. On a fait des progrès, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le nombre d'infarctus a eu tendance à diminuer assez sensiblement, d'ailleurs, au cours des 30 dernières années. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Il faut essayer d'avoir un mode de vie le meilleur possible. L'exercice physique régulier, c'est sûrement quelque chose de très important. Essayer de manger convenablement, on va faire très schématique, mais le régime méditerranéen est quand même une bonne chose.
Il est bon pour tout, hein, ce régime méditerranéen,
oui,
pour le cerveau, pour le cœur.
C'est bon pour le palais, d'ailleurs, aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est quelque chose de bon. Moi, j'adore l'huile d'olive, par exemple.
Nous aussi.
Donc ça, c'est important. Ne pas fumer, bien sûr.
Le tabac, c'est vraiment
c'est un très gros facteur. Ça esquinte les artères. Ce fameux vernis dont je vous parlais.
Oui, parce qu'on parle des poumons souvent dans le tabac, mais c'est très mauvais pour les vaisseaux et le cœur aussi.
C'est mauvais pour beaucoup de choses. Ouais. Pour la peau, pour plein de choses. Donc ne fumez pas.
Merci beaucoup, professeur Danchin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour cet éclairage limpide sur l'infarctus. Bel après-midi à vous et merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, Benjamin Lévesque, vous vouliez nous parler d'une maladie, l'épidermolyse bulleuse. C'est une maladie rare, je crois.
Oui, on estime qu'elle touche moins d'1 enfant sur 1 million. C'est une maladie génétique qu'on appelle aussi la maladie des papillons, puisque la peau des malades est aussi fragile que les ailes de papillons. Elle se décolle au toucher, ce qui peut provoquer bien des plaies, comme l'explique le docteur Emmanuel Bourrat, spécialiste des maladies rares à l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Il faut penser à un grand brûlé, ça peut être 100% quasiment de la peau, et ça touche également les muqueuses. Ça fait donc des plaies continues, et ça entraîne de l'inflammation, et cette inflammation a également donc une conséquence interne, et donc il y a un retentissement. C'est des patients qui ont beaucoup d'anémie, qui ont des difficultés pour manger, des difficultés pour grossir, qui ont de la douleur en permanence, qui ont des articulations qui vont se raidir avec le temps, qui vont pouvoir de moins en moins marcher, et qui souvent, au bout d'un certain temps, vont être obligés de se déplacer en fauteuil.
Et par la suite, les malades vont développer des cancers de la peau dès l'adolescence, ce qui explique que l'espérance de vie reste faible, généralement moins de 40 ans.
Et Benjamin, est-ce qu'on sait quand est-ce que cette maladie apparaît ?
Eh bien, dès la naissance, vous allez entendre le témoignage d'Angélique. Elle est maman d'une petite Maëlle de 6 ans. Elle a vu que quelque chose n'allait pas dès les premières heures après l'accouchement.
Alors c'est au moment de l'habiller, à peu près une heure après sa naissance, qu'ils se sont rendus compte qu'il lui manquait un bout de peau dans le dos, d'à peu près 4 cm par 5. Sur le coup, on a trouvé ça un petit peu étrange, mais on s'est pas trop inquiété. On s'est dit que c'était peut-être au moment du passage. Après, j'ai commencé à l'allaiter et là, rapidement, des bulles sont apparues sur ses lèvres et sur ses gencives. Et enfin, quand ils lui ont fait le fameux test de Guthrie pour évaluer si elle avait des maladies rares, quand elle est revenue, il lui manquait la moitié de la peau de la main. Donc la moitié de sa peau avait été arrachée en soutenant la main, simplement. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose avec sa peau.
Et le diagnostic est tombé quelques jours après sa naissance. C'est une épidermolyse bulleuse. Depuis 6 ans, Maëlle doit porter des pansements en permanence et sa famille doit être vigilante à chaque instant.
On fait absolument attention que ces enfants-là ne tombent pas, ne se blessent pas. Quand ils sont bébés, on va avoir tendance à mettre tous les vêtements à l'envers pour que les coutures, le simple frottement des coutures peut leur engendrer des décollements cutanés. Elle va à l'école. On voulait vraiment qu'elle puisse avoir une vie la plus normale possible, mais malgré tout, elle a avec à ses côtés une assistante de vie scolaire qui veille sur elle, qui est un petit peu sa garde du corps finalement. Oui, Maëlle, elle nous en parle très souvent. Elle nous dit qu'elle voudrait avoir la peau comme nous, d'avoir une belle peau, que quand elle voit sa peau, on dirait une peau de mamie. Elle va parfois arriver à avoir des phrases vraiment très dures, comme de nous dire « si vous en avez marre de moi, il faut me tuer ». Donc des choses vraiment très, très violentes.
Un témoignage extrêmement poignant de cette maman Angélique. Benjamin, est-ce qu'il existe des traitements contre cette maladie ?
Non, aujourd'hui, il n'existe aucun médicament capable de guérir cette maladie. Pour l'instant, ce que l'on peut faire, c'est uniquement apaiser les malades avec des soins de confort, comme le dit le docteur Emmanuel Bourrat.
Il y a eu quand même beaucoup de progrès, notamment avec des pansements qui sont des pansements non adhésifs, très confortables. Et une fois qu'on a mis des pansements sur une peau abîmée, ben déjà la douleur disparaît, la peau se défend mieux contre les infections. Il y a moins de pertes de protéines, de sang, des choses comme ça. Donc là, déjà, les progrès en matière de pansements ont été très importants. Et puis, on sait traiter mieux les infections, on sait traiter l'anémie, on sait aider les gens à grossir. Actuellement, on s'oriente vers des traitements anti-inflammatoires, vers des traitements qui améliorent la qualité de la cicatrisation et on espère surtout pouvoir permettre un jour de corriger ces mutations génétiques.
Alors pour aider justement la recherche,
oui, dites-nous tout,
et
on
l'association
veut aider cette association.
Des malades.
Alors on fait
de l'épidermolyse.
Quoi?
Alors vous faites un don sur le site internet www.debras.fr, Debras D-E-B-R-A, www.debras.fr. Et pour ceux qui préfèrent donner avec un chèque ou un virement, eh bien vous pouvez prendre contact avec l'association par mail à l'adresse contact@debras.fr.
Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions et ce petit coup de pouce très important.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Place à la sexo avec la chronique de Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on a une question qu'on a reçue par mail, une question de Fabien que Jimmy va nous lire tout de suite.
Avec plaisir. Je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis presque 2 ans et ça me pèse. Y a-t-il un risque pour que je ne sache plus comment m'y prendre avec une femme ou c'est comme le vélo ? Alors Catherine, c'est vrai que c'est très frontal, mais est-ce qu'on peut comparer une relation sexuelle, en tout cas la façon dont on va faire ça, avec le vélo ? Le vélo, c'est technique, donc c'est une compétence particulière. Or, la relation sexuelle, est-ce que la comparaison, elle tient le coup ?
Alors, elle tient le coup seulement dans le sens où, effectivement, il y a une sorte d'évidence. Quand on fait du vélo, par exemple, il y a une technique, mais la réalité, c'est d'oublier la technique et de laisser le naturel du corps trouver, comme il trouvait l'équilibre en marchant, trouver l'équilibre en pédalant. Eh bien, dans la sexualité, il y a aussi cette, il y a d'abord cette appréhension, bien sûr, de rencontrer l'autre, de pénétrer l'autre, puisque là, nous parlons de la part, du côté masculin. Et puis, les découvertes faites, finalement, nous rendent à l'évidence de la spontanéité des corps et de l'emboîtement naturel des corps. Donc, à ce titre, le corps qui a trouvé le chemin, c'est le chemin. Sauf que c'est évidemment, comme pour le vélo, c'est compter ou ne pas compter sur les encombrements que peuvent avoir ou faire le psychisme. Comme par exemple, si je dévale un escalier 4 à 4 mes marches, tout en réfléchissant à d'autres choses, naturellement, mes pieds savent exactement où se poser. Mais parfois, ma tête va venir encombrer cela parce que je vais me dire, est-ce que j'ai bien posé le pied au bon endroit? Est-ce que je fais bien? Et là, d'un seul coup, je ne fais plus bien, je perds l'équilibre. Et c'est ce qui se joue parfois également dans les relations amoureuses.
Deux ans sans rapport sexuel, c'est quelque chose qui vous choque? C'est fréquent? Enfin, est-ce que c'est très problématique d'ailleurs ou pas?
Non, ça ne me choque pas. Ça peut vous paraître très, très, très étonnant et insurmontable. La réalité, c'est qu'il y a des tas de gens qui connaissent des périodes d'abstinence importantes parce que leur vie est ailleurs, parce qu'ils ont eu d'autres choses et d'autres chats à fouetter. Parce que si on a été quitté...
Concentration sur le professionnel, voilà, parce que pour multiples raisons.
Ou on a été quitté et il a fallu se retrouver, où on s'est battu pendant des mois dans un divorce. Le sujet de la sexualité et qui plus est de l'amour ne se faisait pas, enfin n'était pas la priorité. Et puis deux ans, ça passe en fait très très vite si on est occupé à plein d'autres choses, hein, où on a pu avoir des problèmes de santé. Et il n'y a rien qui s'oublie, il y a juste à se redonner une ambition dans la relation à l'autre, tout simplement.
Est-ce que ces deux ans comptent vraiment? Est-ce qu'il n'aurait pas exactement la même pression si ça faisait, je ne sais pas, trois mois s'il n'a pas eu de relation sexuelle? Puisque ce qui va effrayer, c'est le fait d'être avec une nouvelle partenaire ou un nouveau partenaire.
Vous avez tout à fait raison.
Peut-être que c'est juste l'angoisse de la nouveauté, de bien faire, mal faire, et peut-être accepter d'être mauvais au début et puis de s'améliorer petit à petit, un peu comme le vélo.
C'est ça, c'est-à-dire que dans la réalité, il a été en relation avec quelqu'un et ne s'est pas posé les questions de ce qu'il savait ou ne savait pas faire. Et là, tout d'un coup, évidemment, il y aura une nouvelle rencontre. Sous couvert de deux ans, suis-je capable d'y arriver? Et en effet, comme vous le dites très justement, je pense que son anxiété est une anxiété qui n'est pas à la mesure du temps d'absence de sexualité, mais son anxiété tout court dans la rencontre avec autrui.
C'est pas une question un peu masculine quand même? Je suis pas sûre que les femmes se demanderaient est-ce que je sais encore faire l'amour? Enfin, je sais pas, ça me paraît quelque chose.
Non, les femmes, si. Ouais. Les femmes aussi se posent la question. C'est pas de savoir.
Parce que les hommes sont toujours sur cette histoire de performance plus que les femmes, ça on le dit souvent dans cette émission.
Bien sûr, mais les femmes se mettent aussi cette pression pour justement plaire. Est-ce que je serai pas ridicule? Parce que est-ce que je vais toujours me lubrifier ou pas? Parce que les hommes sont plus au fait parfois de leur érection. Les femmes voient moins un peu ce qui se passe en elles, à moins d'être très dans la masturbation ou autre. Et donc, il faut refaire rentrer quelqu'un dans sa vie sans parler de son corps. Donc, c'est quand même aussi source d'anxiété de redémarrer quelque chose si notre vie s'est un peu ternie. Et je ne parle pas que d'un point de vue amoureux, parce que si notre vie professionnelle, notre vie sociale, notre vie est joyeuse, assez naturellement la sexualité prend le même élan. C'est quand il y a des choses qui sont un peu en berne, qui nous laissent penser que la sexualité pourrait être en difficulté.
Est-ce qu'il faut partager cette angoisse avec le partenaire? Est-ce qu'il faut dire, bah tiens, j'ai peur, ça fait longtemps que je n'ai pas fait l'amour, ou mieux vaut garder ça pour soi, et puis allez, y a là, advienne que pourra.
Non, je pense qu'on peut se dire, là, j'ai l'impression d'avoir 14 ans et de recommencer, de démarrer ma vie amoureuse, parce que c'est vrai, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on a le sentiment d'avoir 14 ans, on n'est pas toujours très cérébré dans nos échanges. Donc le dire, c'est déjà passer cette première épreuve et c'est avoir une main tendre qui vous y accompagne.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui c'est une
aujourd'hui
sans on se lâche, hein, sans modération.
Champagne. C'est une fois par an, pas plus, mais là on y va, une émission autour du champagne avec une invité exceptionnelle, Stéphane, Amélie Nothomb, qui adore les fines bulles. Oui. On parlera de ceux qui ont créé le champagne.
Bien sûr, la veuve Clicquot, d'abord. Et puis, Dom Pérignon, Pierre, de son prénom, qui a perfectionné la méthode champenoise. Et vous allez faire le portrait de notre invité.
Je penserai le portrait à 100% vrai, parce qu'on ne va pas se fâcher, d'Amélie Nothomb.
Très bien.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.